France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Dans la famille Rameau, il demande tout le monde, non seulement Jean-Philippe, mais aussi le fils qui s'appelle Claude François, c'est comme ça, c'est son prénom, le frère Claude, le neveu Lazare. Alors c'est pas forcément le neveu de Rameau qu'on connaît avec Diderot, en tout cas toute la famille Rameau, c'est le nouvel album du claveciniste Justin Taylor qui est notre invité. Ce matin, bonjour.
Bonjour à tous.
5 ans après la famille Forqueray, une nouvelle famille. Donc, est-ce que vous n'auriez pas une âme de généalogiste ?
Je dirais que c'est plus un hasard, en fait. Parce que ce qui m'intéresse quand je fais un nouveau projet, c'est vraiment d'essayer de replacer les œuvres dans leur contexte. Et c'est vrai qu'à l'époque, disons, le métier s'apprenait en famille. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a toutes ces grandes familles de compositeurs. Évidemment, Bach, les Couperin, les Forqueray. Et j'ai découvert aussi les Rameau, parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment l'intuition avant, mais donc en faisant ces recherches, je suis tombée sur ces pages de musique que je trouve aussi très intéressantes. Alors évidemment, il n'est pas question de dire que finalement Jean-Philippe est moins intéressant que les membres de sa famille, mais voilà, en tout cas, je trouve ça très intéressant de voir par exemple l'enfance dijonnaise de Jean-Philippe Rameau avec son frère Claude. Voilà, ils sont restés très proches, et donc voilà, c'est surtout, je pense, pour replacer les œuvres dans leur contexte, et ça permet aussi de mieux les apprécier.
Et puis, ça n'est pas qu'une famille de sang, puisqu'il y a aussi sur ce disque qui vient de paraître chez Alpha Classics des hommages. On va y revenir. C'est quoi, Justin Taylor, vos tout premiers souvenirs de Jean-Philippe Rameau?
Alors, en fait, c'est une Allemande du premier livre. Je me souviens très bien, ma première professeure de clavecin, Françoise Marmin,
qui m'a fait, à Angers, exactement,
m'a fait découvrir cette musique. Et voilà, je me souviens vraiment d'être complètement émerveillée par cette poésie du toucher, cette sensibilité très instinctive chez Rameau. Et même, c'est assez marrant parce que je me souviens après lui avoir dit, mais qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après? Puis on a fini par faire toute la suite, alors qu'on était juste censé faire une Allemande. Donc c'est tout d'abord un souvenir, presque un peu une Madeleine de Proust d'enfance. Et ensuite, c'est évidemment un compositeur qui m'a accompagné dans mes études, dans mes concerts. Là, c'est une musique que j'aime énormément jouer, qui me parle beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle vous dit ?
En fait, je trouve que Rameau fait un peu le grand écart entre plein de courants. C'est à la fois un compositeur qui a cette sensibilité instinctive dont je parlais, qui va dire que la vraie musique est le langage du cœur. Et en même temps, c'est un théoricien qui va s'intéresser à la musique sous un aspect presque physique et mathématique. C'est en même temps un compositeur qui va complètement sublimer la résonance du clavecin et écrire de l'opéra. C'est tout ce mélange. On est toujours surpris. Il va écrire La Poule, qui est une pièce humoristique à la limite du grotesque, même si je la trouve extrêmement charmante. Et par exemple, L'Harmonique, qui est une pièce extrêmement sensible, avec des harmonies complètement visionnaires. Donc voilà, on est constamment surpris, mais toujours touché par sa musique.
Allez, voici un premier extrait de ce disque, nouveau disque de Justin Taylor, La Famille Rameau. Voici Jean-Philippe et voici La Rameau.
Thank you.
La Rameau de Jean-Philippe Rameau, une pièce de clavecin en concert. Justin Taylor, c'est sur votre nouveau disque de la famille Rameau. Donc c'est un arrangement, une transcription que vous avez signé au départ, c'est pour plusieurs instruments.
Absolument, en fait c'est une pièce pour violon, viol et clavecin obligé, on dirait aujourd'hui, enfin voilà, clavecin concertant, et Rameau dans la préface dit qu'on peut investir ces pièces et les jouer seul au clavecin, et voilà, je me suis permis d'ajouter un tout petit peu quelques voix, enfin de pas jouer uniquement la partie de clavecin qu'on est censé jouer avec le violon et la viole, mais justement d'incorporer un peu ces deux instruments manquants pour en faire vraiment une pièce seule.
Pourquoi Rameau écrit La Rameau ?
Alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'autant en peinture, l'autoportrait est assez fréquent. En musique, beaucoup moins.
Pour vous, il y a de l'ironie là ou...
J'ai pas vraiment l'impression que... Non, c'est difficile à dire. Pourquoi pas ? C'est peut-être un autoportrait relativement fidèle où on voit quelqu'un d'assez fougueux, relativement buté, mais en même temps avec une énergie vitale assez incroyable, et puis quelques bribes de sensibilité et de lyrisme dans la partie B. J'avoue que je ne vais pas pouvoir vous donner vraiment plus d'informations. J'ai un peu cherché, mais ça reste assez mystérieux.
Cet album, on a commencé à toucher ça. Comment vous l'avez imaginé ? Conçu avec Jean-Philippe Rameau, avec la famille Rameau, et puis avec des hommages et même une dernière plage assez particulière.
Comme je vous disais, j'essaye vraiment de brosser un portrait général d'un compositeur quand je m'intéresse. Donc ici Rameau, donc évidemment j'ai commencé par rejouer toute son œuvre. On a à peu près 2h30-3h de musique pour clavecin seul. Puis je me suis dit alors qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je fais une intégrale ? Mais il y en a déjà beaucoup. Moi je suis toujours un peu taraudé par l'idée de qu'est-ce qu'on peut apporter comme un nouvel éclairage sur un répertoire connu. Et donc en faisant mes recherches, j'ai vu que voilà, il y avait son père organiste, son frère, son fils, le fameux Claude François et son neveu qui avaient aussi écrit de la musique, et je me suis dit mais elle est où cette musique, comment on peut essayer de la redécouvrir. Donc une partie est sur internet, hein, aujourd'hui c'est très facile de retrouver des manuscrits. L'autre partie était à la BNF, et là aussi finalement c'est relativement facile, et donc voilà, j'ai commencé à rassembler ce matériel musical, et j'ai trouvé que ces musiques entre elles dialoguaient et enrichissaient vraiment ce portrait familial. Donc je suis parti sur cette idée. Et donc la dernière plage dont vous parlez, qui est l'hommage à Rameau, composé par Debussy en 1905. Donc là, on s'éloigne complètement de l'époque baroque, mais justement, je trouve que ça faisait un pont formidable, et puis ça montrait
que vous ne jouez pas au clavecin. Hein.
Que je ne joue pas au clavecin. J'ai effectivement, ça sonnerait pas vraiment pareil, je pense.
C'est vous pas vraiment pu adapté.
Je pense qu'il me manque pas mal de touches et pas mal de pédales et de résonances. Mais donc j'ai enregistré sur un Erard 1891 qui est à la Cité de la Musique à Paris. Et voilà, pour montrer que voilà, cette famille et Jean-Philippe, évidemment, a marqué l'histoire de la musique définitivement. Voilà. Et que même au XXe, on a encore des résonances de son style. Et Debussy s'en saisit, je trouve, justement, avec beaucoup d'humilité presque. Et évidemment, il y a la patte de Debussy, mais voilà, dans cette pièce qui sous-titre dans l'esprit d'une sarabande, mais sans rigueur, voilà, il y a tout ce respect qu'il a pour Rameau et l'époque baroque.
Justin Taylor. Il y a Jean-Philippe Rameau, il y a donc toute cette famille tombée dans l'oubli de l'histoire de la musique, mais mérite-t-il d'être redécouvert, ou est-ce qu'ils sont tombés dans l'oubli à juste titre ? Ça peut arriver aussi.
Bien sûr, oui. Alors c'est évidemment des questions qu'on se pose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un grand appétit pour l'inédit, des fois c'est mérité, des fois ça l'est moins. Dans le cas de la famille Rameau, je dirais en fait, ce dont ils pâtissent, c'est surtout qu'il y a une œuvre extrêmement réduite. Par exemple, son fils a écrit qu'une seule suite, où il y a 5 pièces. Lazare Rameau, en 1788, il publie 3 sonates. Donc, 3 sonates de 3 mouvements.
Drôle de personnage, Lazare Rameau, apparemment.
Oui. Comme vous le disiez, en fait, c'est le frère de celui qu'on connaît sous le nom de neveu de Rameau, qui s'appelle Jean-François, lui, bref.
Le neveu de Rameau de Diderot.
C'est ça, exactement. C'est un peu compliqué. Oui, Lazare Rameau, effectivement, personnage assez mystérieux, un peu fantasque, organiste aussi. On ne sait pas énormément de choses sur sa vie. Et voilà, il publie comme ça, juste à la veille de la Révolution, ses 3 sonates pour le clavecin ou le pianoforte, où on sent le style classique qui envahit hein, l'Europe entière à cette époque-là. Et je trouve ça très intéressant d'entendre au clavecin voilà, ce style qu'on a moins l'habitude d'entendre. Et je ne sais plus où on en était dans nos affaires familiales. Et voilà, et Claude François. Donc Claude François a écrit une suite. Lazare a écrit 3 sonates. et Claude Rameau, son frère, n'a écrit qu'une cantate dans laquelle il y a ce minuet. Donc disons, c'est vrai que c'est difficile de diriger ces compositeurs en tant que grands compositeurs avec une œuvre aussi réduite, mais néanmoins, je trouve que voilà, cette petite sélection est assez intéressante.
Ça compose un portrait familial. Mais justement, dans votre précédent premier disque solo, La famille Forqueray, il y avait une pièce qui s'appelait La Rameau également, si je ne m'abuse, et ici, il y a une pièce de Claude François Rameau qui s'appelle La Forqueray. La Forqueray de Claude François Rameau, qui est donc le
fils
de Jean-Philippe Rameau. Ça y est, je suis perdu. C'est sur l'album La famille Rameau de Justin Taylor, qui vient de paraître chez Alpha Classics. Très beau disque et puis très beau clavecin. On vient d'entendre ce son. Ce n'est pas n'importe quel clavecin. Ça n'est pas n'importe quel endroit non plus, enregistré au château d'Assas, à côté de Montpellier. Quel est votre souvenir de la découverte de ce lieu d'abord et de cet instrument ensuite ?
Alors c'est un lieu évidemment dont j'avais entendu parler, tant il est mythique dans le monde du clavecin et même au-delà. Mythique parce qu'il y a effectivement ce clavecin qui date des années 1730, de facture lyonnaise, et qui a un son absolument fascinant. Et puis aussi parce que de nombreux clavecinistes ont gravité autour de ce clavecin et s'en sont emparés.
D'accord,
et on pense évidemment à Scott Ross, qui a habité sur place et qui a et contribuer à l'essor du clavecin en général, et puis à faire découvrir cet instrument. C'est un lieu que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait, il y a 2 ans, je crois, un été. Et justement, j'étais dans le coin, et puis ça faisait longtemps vraiment que je voulais y aller, donc j'ai appelé Marie-Claire de Mangel, qui veille sur le château et le clavecin. Et je me souviens d'une rencontre déjà humaine avec Marie-Claire, qui est une personne absolument formidable. Et puis évidemment, ce clavecin, on soulève le couvercle et on a presque l'impression d'être projeté dans le 18e. C'est un peu le bon clavecin au bon endroit. Il est dans un magnifique château 18e qui est encore complètement dans son jus, je dirais. Et on sent cette presque cette présence. Et je trouve qu'avec ces instruments, en fait, c'est presque eux qui nous aident à renouer le lien avec le passé. Parce que on a ce son presque qui nous vient de 300 ans. Donc c'est très émouvant.
Un lieu habité et un instrument qui l'est également. Il faut, si vous aimez la musique ancienne, et que vous passez en région Occitanie, aller au château d'Assas où il y a régulièrement, quand c'est possible, des concerts. Vous êtes claveciniste, Justin Taylor, mais vous êtes aussi pianiste, pianofortiste. C'est assez rare d'ailleurs en France, ce double cursus clavecin-piano. Vous continuez donc à pratiquer vos autres instruments. Le piano, on l'entend sur la dernière plage de ce disque. Le pianoforte, vous le jouez d'ailleurs de plus en plus, on dirait, non?
Ouais, c'est effectivement, en fait, j'ai commencé quasiment en même temps le piano et le clavecin. Et quelque part, je suis un peu constitué avec cet équilibre. Et puis l'ouverture de répertoire que ça amène est évidemment très, très intéressante et bénéfique. Je trouve que ça nourrit un musicien. Donc effectivement, là, je trouve que c'était un clin d'œil assez, assez marrant. C'est quand même la première fois que j'enregistre vraiment du piano plus tardif. Et effectivement, ce mois-ci, là, il y a pas mal de concerts au piano forte, dans un concerto de Mozart qu'on avait enregistré avec le concert de la loge de Julien Chauvin il y a 3 ans qu'on va reprendre, et puis justement des trios avec Julien Chauvin et Victor Julien Ferrière. Donc voilà, oui, je trouve que c'est une ouverture sur le répertoire qui est un peu vitale pour moi.
Captation à l'Arsenal de Metz ce mois-ci avec Julien Chauvin et Victor Julien Laferrière dans ses trios avec pianoforte de Haydn et Beethoven. Captation aussi par France Musique à Caen, le festival Osé Haydn avec le concerto de Mozart, le 453, c'est le 17e, c'est
absolument,
ça?
Absolument.
Et le concert de la Loge, et Julien Chauvin d'ailleurs qui sera demain soir en direct sur France Musique, si je ne m'abuse, avec également le concert de la Loge, et d'ailleurs ce 17e également concerto, si je ne m'abuse non plus. Vous serez aussi à Deauville le 24 avril, et là pour le coup, de
autre
retour au clavecin.
Ouais.
Mais clavecin du XXe siècle.
Absolument, voilà. Donc là, ça sera le concerto de Faya, qui est une pièce assez étonnante, qui est écrite pour flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle et clavecin concertant, on va dire. Et un peu pièce maîtresse de la redécouverte du clavecin au XXe. Il y a un peu le concerto de Poulenc, celui de Faya, tous deux dédiés à Wanda Landowska, qui est une très, très grande figure aussi. Donc voilà, là effectivement, c'est encore une autre paire de manches, je dirais. Mais de nouveau, voilà, des œuvres, je trouve, qui méritent d'être défendues.
Un chef-d'œuvre de Faya méconnu à découvrir sur le site du Festival de Pâques de Deauville. Ce sera le 24 avril, mais ce sera également enregistré par les micros de France Musique qui sont décidément partout. Justin Taylor. Il y a donc le clavecin, il y a le piano, il y a le pianoforte, mais il y a aussi le consort, cet ensemble. Tiens, si on l'écoutait d'abord.
Yeah.
Un air d'Attilio Ariosti, extrait de Caio Mardio Coriolano, Coriolan, avec Eva Isaacic et le consort et Justin Taylor au clavecin. C'est ce disque, très beau disque, Royal Handel, paru en tout début d'année. On avait reçu ici même Eva Isaacic pour en parler. Justin Taylor, le consort, c'est qui le chef du consort? C'est vous?
Non, non, y a pas. C'est vous allez dire que c'est une obsession, mais c'est un peu une famille, disons. Donc non, ça. Alors évidemment, en fonction des projets, voilà, on se répartit un peu les tâches, la recherche de répertoire, et puis pendant les répétitions. Mais non, c'est collaboratif.
Vous avez pas mal joué quand même avec le consort, même malgré la période, évidemment sans public, mais il me semble que vous en sortez plutôt bien. Il y a ces différentes résidences, il y a un mécénat également. Le consort survit à la crise.
Oui. Alors effectivement, on a conscience d'être très chanceux de ça, parce que c'est évidemment pas le cas de tous les musiciens et de tous les ensembles, mais effectivement, on a réussi quand même à maintenir une certaine activité, des captations à Royaumont, on est en résidence. Et puis là, le mois dernier, on a enregistré un nouveau programme qui va paraître à la rentrée en septembre.
De Rameau?
Non, et pas de famille non plus. Deux compositeurs vénitiens, Vivaldi évidemment que tout le monde connaît, et Reali, voilà, qui a publié exactement à la même période des sonates en trio que pour le coup on connaît beaucoup moins et qui sont pour la plupart inédites. Donc voilà, effectivement on continue notre activité de jouer ensemble et puis de voilà, on essaie de se développer et puis de il y a des nouveaux projets qui arrivent. Voilà, c'est un peu le lot des crises. Il y a beaucoup de négatifs, il y a un tout petit peu de positifs. Voilà, cet enregistrement qui n'était pas prévu, ben on a du temps qui s'est libéré, donc on a pu le caser. Donc voilà, on essaye d'en tirer le meilleur parti et puis de garder le moral.
Royal Handel, ce programme, vous le donnerez au Festival de Saint-Denis le 13 juin. Et là, on l'espère, on y croit et on est raisonnablement optimiste qu'il y aura du public le 13 juin pour ce Royal Handel. Oui, Rameau avec le concert, le consort, ce serait possible?
Rameau, disons que...
Il faudrait fournir l'ensemble.
Oui, non, c'est... Enfin, on ne sait pas encore, ça dépend un peu. Pour l'instant, on n'est pas vraiment encore sur ces répertoires français en grand effectif. Voilà, on construit pas à pas, on fait un trio. Là, c'était un peu avec Eva, c'était notre premier projet un peu plus étoffé, mais c'est pas encore à l'ordre du jour de faire du Rameau... orchestral.
Justin Taylor, on vous imagine obsédé par la musique du XVIIIe siècle, mais non, pas du tout. Vous jouerez donc à Deauville le concerto pour clavecin de Faya et vous venez même de jouer une œuvre d'un jeune compositeur au clavecin.
Oui, absolument. Voilà, en parlant de positiver, de projets qui se créent, il y a 2 ans avec l'Orchestre de Picardie, j'avais créé le concerto pour clavecin de Jules Maton. Et puis, en 2 semaines, ça s'est monté comme ça, début avril, un enregistrement. Un peu ex nihilo, mais voilà, ça fait partie de cette période un peu étonnante. Et donc, je ne sais pas encore très bien la destination de cet enregistrement, mais voilà, on a passé 2 jours à Amiens à l'enregistrer. Et voilà, effectivement, moi, j'aime bien parcourir un peu les répertoires. Je trouve qu'ils ont tous quelque chose à nous apprendre et que voilà, ils nous nourrissent.
C'est gravé, en tout cas. La famille Rameau, ça aussi, gravé au festival, au château d'Assas. Avec ce magnifique instrument, et on salue Marie-Claire Demangel qui nous écoute tous les matins, l'hôte de ces lieux incroyables. L'hommage à Rameau de Claude Debussy qui clôt ce disque, et également, on n'en a pas parlé, mais Jean-François Tapret avec Les Sauvages, le fameux thème, et puis des variations. Mais je voudrais qu'on se quitte avec l'Égyptienne, qu'est-ce que vous diriez de cette pièce-là?
Alors l'Égyptienne, en fait, on parle pas de l'Égypte, hein. À l'époque, on parle plutôt de Bohème, des Bohémiens. Ben, c'est un foisonnement ornemental qui crée une espèce de tourbillon sonore qui est pas si évident que ça à jouer. Mais voilà, je trouve justement Rameau joue un peu de cette suavité de ces courbes qui sont créées par tous ces pincées. Et voilà, de nouveau, c'est une pièce que j'ai jouée relativement jeune, et voilà, c'est une pièce que je joue très régulièrement, que j'aime énormément.
On en pince pour Jean-Philippe Rameau, on en pince pour Justin Taylor. Thank you. L'Égyptienne de Jean-Philippe Rameau avec Justin Taylor au clavecin qui lui fait aimer le clavecin, même ceux qui sont réfractaires à cet instrument avec ce magnifique instrument du Château d'Assas, un disque Alpha Classics qui vient de sortir et un choix France Musique. Demain, notre invité sera le grand contrebassiste et compositeur israélien Avishai Cohen. Au générique ce matin, Emmanuel Morse d'Incan, U2 Diego Aclopes, Margot Buller, Florian Henault, Marion Guillemet, Lara Castiglione et Yacine Bouzard. Et la réponse à notre jeu, il y a une heure, on écoutait justement Le Consort dans un air de Handel et il n'y avait pas de corps dans cet enregistrement. Vous êtes, vous confirmez?
J'en atteste.
D'accord. Donc il n'y avait pas de corps, c'était la bonne réponse. Allez, corps à corps avec Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste. Alors vous savez que Rameau n'a pas écrit que pour le clavecin. On écoutera les Indes galantes.
Ah.
Et oui, Valentin Tourneur.
C'est pensé fait, hein, cette matinée.
On prend le prolongement, on prend votre corps et on poursuit.
Vous êtes un aboutissement.
Voilà. Bonne journée et à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.